l'hebdo des régions avec la FPI.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce tout premier numéro de l'hebdo des régions, toutes les semaines, le vendredi, de 11h à 11h30. On va faire le tour de tout ce qui se passe sur la planète promotion immobilière, les infos, les actus, les chiffres, les témoignages. Chaque semaine, nous faisons un focus sur une région. Cette semaine, nous partons en Provence. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Directeur des programmes de Radio Immo. Alors, on commence avec vous Sylvain, vous êtes à l'initiative avec la FPI de cette émission. Expliquez-nous la teneur de l'émission et son ambition.
Alors, on est dans une période un peu particulière, ça n'aura échappé à personne, et plus que jamais, les promoteurs immobiliers sont des acteurs déterminés du territoire. Donc, l'idée avec la FPI au niveau national, avec en tête Alexandra-François Cuxac, était de donner la parole aux acteurs du territoire directement. Ceux qui sont pas forcément visibles ni audibles, c'est ceux qui font le territoire tous les jours, au quotidien, avec lesquels effectivement il faut parler nécessairement des problématiques. On est en période de confinement, donc cette agora, cette place publique digitale que nous essayons de développer doit permettre effectivement de croiser à la fois les expériences, d'avoir aussi des coups de gueule s'il en faut, bien évidemment, de s'adresser aux élus locaux, aider les élus locaux aussi avec, et encore une fois, ils sont pas à la noce en ce moment avec ce qui se passe, et d'essayer effectivement de desserrer aussi, bien évidemment, les contraintes qui pèsent sur les promoteurs. Il faut rappeler quand même un chiffre juste comme cela, ce sont les promoteurs immobiliers qui aujourd'hui fournissent ou produisent 50% du logement social en France, il faut le rappeler. Donc, voilà, considération aussi, et donc de parler avec les personnes de région en région. Donc, pendant un mois, chaque semaine, nous allons aller de région en région pour donner la parole à ceux qui font le territoire, et je suis ravi.
Et voilà, alors on va les présenter dans quelques instants. Ils vont répondre aux témoignages et à l'actualité avec cet anniversaire un peu triste du mal logement, hein, ce drame de la rue d'Aubagne. Ça sera un des sujets de cet hebdo. Tout de suite, les invités.
L'hebdo des régions avec la FPI.
Alors mon cher Sylvain, on aurait adoré évidemment aller directement en Provence à leur contact. On a des règles de distanciation sociale, voire de confinement. Donc on fait, vous l'avez dit, tout en digital. Et on a le plaisir de les accueillir dans notre studio donc virtuel. Jean-Noël Léon, le président de la FPI Provence, directeur général adjointe du groupe Cartus pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour à tous.
Nous avons également Pierre-Alexandre Pernaud, le vice-président de la FPI Provence en charge du Var. Bonjour Pierre-Alexandre.
Merci de nous accueillir.
Jean-François Albert, le directeur de la promotion d'Eiffage Immobilier à Marseille. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous.
Et également Claude Bartolino, c'est la directrice de l'établissement public foncier région PACA. Bonjour Claude.
Bonjour.
Voilà, dans quelques instants, on va également appeler notre grand témoin, ça sera Annie Lévy-Mosiconacci, la ex-conseillère municipale, présidente de l'association Innovons pour Marseille. Je vous propose, messieurs, dames, de démarrer tout de suite avec un état des lieux. Quel est l'état de la promotion immobilière sur votre territoire? On sait que l'année 2020, est particulièrement difficile entre la crise sanitaire, entre l'impact des élections municipales. Est-ce que Jean-Noël Léon, vous pouvez nous donner un aperçu de ce qui se passe sur votre territoire en ce moment pour la promotion?
Oui, alors j'ai bien aimé l'introduction de votre collègue, hein. Nous sommes évidemment des acteurs déterminés, passionnés, et peut-être une petite précision, la promotion immobilière sur notre territoire concernant la production de logements sociaux représente 70% des logements sociaux produits sur le périmètre Provence-Var. Alors, quelques constats, puisque c'est la question, quel est l'état des lieux? Déjà, après cette période de confinement, on a pu constater que, d'une part, depuis fin juin, nous avons eu une reprise des chantiers sur la totalité de nos opérations. Donc, on a fait preuve de coordination, de solidarité avec nos entreprises. Et à ce jour, malgré ces périodes de reconfinement partiel que nous connaissons, nous n'avons pas constaté d'arrêt de chantier sur l'intégralité de notre territoire. Deuxième constat, nos clients sont bien là. On a constaté après le déconfinement que les mois qui ont suivi donc après ce déconfinement, donc nos clients étaient présents. Nous avons eu un été plus que positif. Alors c'est vrai qu'avec cette période de troubles que nous connaissons pour la rentrée, on voit un certain attentisme, je dirais, dans les réservations, mais c'est à la marge. On voit aussi une difficulté accrue, notamment pour l'accès au crédit, un resserrement, je dirais, sur l'accès au crédit, puisque les banques ont réaugmenté leur taux de, je dirais, d'exigence à ce niveau-là.
Et oui, elles suivent, hein, on le sait, les demandes, hein, du Haut Commissariat à la stabilité financière, ça vient peut-être à un mauvais moment. Juste pour faire le lien, on va faire agir Jean-François Albert, le directeur de la promotion chez FH Immobilier à Marseille. Jean-François, est-ce que vous confirmez, les chantiers ont repris, puisque on le sait, hein, dans ce confinement numéro 2, eh bien, vous êtes désigné comme une activité essentielle.
Oui, alors je peux répondre d'autant plus que notre FH, vous savez, a un modèle particulier puisqu'on est constructeur-promoteur, on est adossé à notre entreprise. Donc effectivement, je confirme les propos de Jean-Noël, tous nos chantiers ont repris, je dirais presque. On a appris de la première période de confinement, bien évidemment en respectant toutes les mesures de gestes barrières, hein, mais les chantiers fonctionnent quasi normalement, les approvisionnements se font. On a plus eu à gérer la première période de confinement qui a généré des problèmes, notamment sur certains approvisionnements. Voilà.
Ouais. Pierre-Alexandre Pernaud, vous aussi vice-président de la FPI Provence en charge du Var. Un petit aperçu là sur votre territoire également.
Alors oui, tout à fait. D'abord, c'est pas pour faire encore plus ou encore mieux, mais sachez, puisqu'on parlait des logements sociaux tout à l'heure, que dans le Var, la production des logements sociaux réalisés par les promoteurs privés dépasse les 75%, c'est-à-dire 3 logements sur 4. On observe dans le Var une chute quand même importante du niveau des réservations, moins 30% à la fin du troisième trimestre. Donc, on a une chute d'activité très importante qui est compensée en partie par le doublement des ventes en bloc sur la même période, ventes notamment qui ont été faites à la Caisse des dépôts et consignations. Néanmoins, les ventes au détail chutent. Le stock est extrêmement bas puisque c'est un marché, le Var, qui représente entre 2500 et 3000 logements, ce qui est déjà pas assez. Et on a un stock à hauteur de 1500 logements aujourd'hui, donc très très peu de stock, et ça va pas s'arranger puisque le plus grave des problèmes, c'est la chute absolument vertigineuse de la délivrance des autorisations de construire depuis le début de l'année, et on peut pas dire que le déconfinement ou même le deuxième semestre est un quelconque effet de rattrapage aujourd'hui sur ce volet-là. Donc ça annonce une année 2021 et 2022 avec très peu d'offres, donc très peu de production pour nous, très peu de production sur la partie sociale et forcément des tensions sur les prix, mais certainement aussi sur les marchés de travaux, puisqu'on va en avoir peu à passer, et des conséquences très importantes sur les entreprises locales, je le rappelle, que nous faisons travailler.
Ouais. Vous avez un mot, Jean-Noël Léon, c'est « il faut déconfiner les permis de construire ». C'est vrai que ça fait écho à ce problème, hein, des différents logements, peut-être pas assez de permis de construire, surtout en cette année compliquée.
Oui, comme on le disait tout à l'heure, et ce que vient d'illustrer dans ses propos Pierre-Alexandre, c'est qu'effectivement, le stock général sur l'ensemble de notre territoire est passé de 11 mois à 6 mois, donc on est venu sur un stock ultra tendu, ce qui a donc de conséquence sur une pression sur le prix de vente. D'ailleurs, on voit encore que dans les derniers chiffres qu'on nous annonce, que les prix continuent à augmenter de l'ordre de 2 à 5% en fonction des villes. On a même vu d'ailleurs des études menées par Se Loger, notamment sur la ville de Marseille, où les prix dans l'ancien ont augmenté de l'ordre de 9% en une année, ce qui est un record. Et conjugué à ça, cette problématique de permis de construire que nous souhaitons voir déconfiner, puisqu'on voit que 50% des permis de construire en retrait sur l'ensemble de notre territoire, avec un pic tout particulier sur la ville de Marseille. Donc ne pas construire, c'est pénaliser l'ensemble de la population à cause de la hausse des prix, ce qui est rare et cher. Et c'est aussi donc une conséquence économique de par l'attractivité de nos territoires, mais aussi parce que le bâtiment, quand on dit quand le bâtiment va, tout va, le bâtiment, un logement, c'est la production d'un logement, c'est environ deux emplois et demi préservés sur à peu près 24 mois. Et on voit qu'à l'aune de ces chiffres, on a fait une extrapolation avec les membres de la fédération. On serait, je dirais, sur potentiellement une perte d'emploi d'environ de 10 000 emplois sur l'ensemble de notre périmètre pour l'année 2021, et avec une baisse de chiffre d'affaires théorique de l'ordre de 1 milliard d'activités, en sachant qu'on pousse à peu près 3,5 milliards d'activités sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit bien que les chiffres sont très préoccupants, et c'est pour ça qu'on en a appelé à la responsabilité de nos politiques. Il faut déconfiner les permis de construire.
Alors, merci pour ces précisions. Je voudrais vous redonner quelques chiffres que j'ai donnés d'ailleurs à la télévision récemment sur BFM Business, juste pour qu'on ait une vue macroéconomique qui est tout à fait corroborée avec ce qui se passe dans votre région, messieurs. La France a dépensé, si on prend la production et le premier et le deuxième confinement, nous en sommes à une dépense publique de 186 milliards d'euros. 186 milliards d'euros. Depuis le 9 octobre 2020, la France vit à crédit, elle n'a plus aucune réserve, elle ne vit uniquement que par l'emprunt. Donc à un moment donné, effectivement, l'État n'a quasiment plus de ressources. Nous avons atteint 119% d'endettement sur le PIB et nous passerons certainement d'ici fin décembre à 125% du PIB, là où nous pensions effectivement avoir une augmentation des déficits de l'ordre de 2,5%, nous sommes à 11,3%. Inutile de vous dire, bien évidemment, que c'est catastrophique. Alors, le gros problème, si on prend l'activité du BTP, l'activité immobilière, du point de vue des promoteurs, pour vous, les promoteurs, c'est une double peine. C'est une double peine à deux niveaux. C'est la première, c'est suite aux élections municipales, avec un bouleversement de la gouvernance des villes, on a des maires quand même, il faut le dire, qui ont dit qu'ils ne délivreraient plus ou pas, ou à la compte-goutte, des permis de construire. Ce qui est quand même une incohérence incroyable, puisque pour rappeler quand même que sur le territoire national, il y a 2,5 millions de personnes qui sont mal logées. Et effectivement, sans les promoteurs, le diffus, sans aussi les acteurs privés du logement, les bailleurs privés, et d'ailleurs on reviendra sur cette question du statut du bailleur privé, et bien écoutez, tout simplement, on projette des personnes dans une grande précarité. On fera tout à l'heure un hommage sur ce qui s'est passé il y a 2 ans sur la rue d'Aubagne, pour rappeler que les personnes qui ont été délogées sur la rue d'Aubagne n'ont toujours pas été relogées. Et donc, si on dit aux promoteurs immobiliers, on va desserrer les contraintes, et qu'en même temps, on a des élus locaux, des collectivités locales qui freinent des quatre fers pour essayer de délivrer les permis de construire, vous l'avez dit, Pierre-Alexandre, tout à l'heure, c'est une hérésie absolue. Donc, cette réflexion sur la ville touche l'ensemble des secteurs d'activité, et vous avez rappelé un chiffre important. Pour construire une unité, ça fait travailler, Pierre-Alexandre, je crois, 2,5 emplois, c'est bien ça ?
Pendant 2 ans.
Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que votre temporalité par rapport, vous parliez tout à l'heure du stock, l'activité économique induite par l'activité des promoteurs, elle est absolument vitale. Je vais même aller plus loin, c'est l'artère fémorale de l'activité économique française. Il faut le rappeler, à un moment donné, il faut comprendre que les promoteurs aient un vrai coup de gueule en disant il faut nous aider à desserrer les contraintes, il faut permettre aux promoteurs aussi de faire venir des clients dans les showrooms, dans les bulles de vente aussi, parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Alors on vous laisse faire les chantiers, on vous laisse fabriquer, mais on vous empêche effectivement de faire le travail. Comme pour les agents immobiliers, on leur dit vous pouvez prendre des mandats de vente chez les clients, mais vous ne pouvez pas les faire visiter. Ce qui revient à dire d'aller au restaurant, de commander un plat et de pas pouvoir le goûter. Donc à un moment donné, il faut comprendre que les territoires ont une importance fondamentale dans l'activité. Enfin, un dernier chiffre, c'est le chiffre de la Fédération française du bâtiment, Jean-Noël Loëlon, vous le savez, ainsi que vous, messieurs. Écoutez, on est repassé dans le rouge vif. On était dans le vert pâle il n'y a pas si longtemps. On pensait effectivement que les indicateurs étaient bons. Et là, on bascule dans une précarité. Et encore une fois, je répète, c'est vraiment une double peine, puisque ce confinement, finalement, c'est une double mort. C'est une mort, effectivement, sanitaire pour beaucoup d'entre nous, malheureusement. Et c'est une véritable tragédie. Mais si elle s'accompagne d'une mort économique et sociale, à ce moment-là, il nous attend devant peut-être 10 années de marasme. Il faut rappeler enfin que la temporalité d'un promoteur n'est pas la même qu'un mandat d'élu et qu'il faut aider les promoteurs à générer effectivement suffisamment de foncier pour pouvoir avoir un stock décent. Moi, je ne comprends absolument pas comment on a pu, à mon avis, en arriver là avec les élus locaux. Je pense que c'est aussi une question. C'est dommage qu'Annie Lévis ne soit pas encore connectée, et j'espère qu'elle le sera, pour qu'on puisse poser ces questions. Et cette émission précisément, messieurs, c'est de vous donner la parole et d'affirmer haut et fort le rôle majeur que vous avez aujourd'hui dans l'économie nationale.
On vous fera réagir bien évidemment au mot de Sylvain Lévy-Valency. On a récupéré Claude. Hein, Claude, vous êtes avec nous par téléphone?
Il y a une coupure de réseau, plus de wifi, il n'y a plus rien.
Bon, ben ça arrive, le téléphone fonctionne. Un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit, je ne sais pas si vous avez entendu.
Est-ce que nos invités l'entendent ? Vous entendez bien Claude au téléphone, messieurs ?
Oui, j'entends parfaitement.
Oui, oui.
Ok, et vous messieurs ?
Oui, très bien.
Ok, Fabrice.
Donc Claude, on vous écoute justement. Je rappelle que vous êtes directrice de l'établissement public foncier PACA. Ah, on a perdu Claude. En tout cas, on a récupéré Annie, oui.
Oui.
C'est Annie ou c'est Claude, du coup?
Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est Claude.
Alors, Claude, allez-y, on vous écoute.
Oui. Donc, ce que j'évoquais, c'est que j'interviens sur l'ensemble de la région. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate qu'il y a quelques élus qui ont été récemment désignés par nos concitoyens qui sont effectivement sur des postures beaucoup moins bâtisseuses, entre guillemets. Nous, on a une petite dizaine d'opérations qui sont comme ça, entre guillemets, à risque. Par contre, on voit aussi, et je pense qu'il est important de le rappeler, de le préciser, des élus qui sont engagés dans l'acte de construire, dans l'utilité, le besoin et de répondre aux besoins des populations et de leur territoire. Et je crois qu'il est vraiment essentiel de l'évoquer. Nous sommes dans les 2 ans par rapport à malheureusement l'anniversaire du drame de la rue d'Aubagne. Vous dire aussi que nous sommes opérateurs fonciers pour le compte des collectivités, villes et métropoles, et que normalement nous avons été désignés par engagement conventionnel pour intervenir sur la rue d'Aubagne. Nous avons procédé à pas mal d'acquisitions à l'amiable, y compris de biens démolis, hein, enfin tombés. Et là, nous passons en expropriation pour pouvoir maîtriser le reste du foncier de façon à permettre aux élus d'avoir le projet qu'ils souhaitent. Donc, juste rappeler qu'il y a des élus qui construisent, il y a des opérations qui sortent. Par contre, oui. Effectivement, c'est comment donner envie à ceux qui ne veulent plus construire de rappeler les besoins de leur population, parce que je crois que, revenons aux fondamentaux, il y a des besoins.
Bien sûr, bien sûr. Claude Bertolino, je vais préciser une chose. Je ne parle pas de l'ensemble des élus locaux. Je rappelle juste un chiffre. 600 000 élus locaux travaillent tous les jours bénévolement pour leur mairie. Il faut le savoir, sur 34 500 communes aujourd'hui, il faut saluer le travail des élus locaux, il faut les laisser bosser, il faut que l'État, en fait, retrouve un vrai respect de l'élu local et du maire. Le maire bâtisseur n'est pas un maire vaincu, c'est faux. Il y a des maires aujourd'hui qui construisent. Il y a un besoin dans la population et le logement, c'est aussi la dignité sociale et c'est le repère et le marqueur social. Je rappelle que le logement est très directement lié à l'emploi. Et bien évidemment, pour pondérer mon propos, bien évidemment, une écrasante majorité d'élus locaux joue le jeu avec les promoteurs. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus d'analyser le fait que certains maires de grandes villes, et ils se reconnaîtront, ont fait des annonces pour le moins tout à fait singulières, quand on sait qu'aujourd'hui, le besoin métropolitain est un besoin réel, les promoteurs savent travailler, ils appliquent les normes, ils sont économiquement responsables, à un moment donné, il faut aussi rétablir l'équilibre.
Ça fait la transition vers justement le témoignage du jour. On va accueillir Annie Lévy-Mozzi-Conacci, ex-conseillère municipale et présidente de l'association Innovons pour Marseille, le grand témoin.
Oui, bonjour. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, Annie.
Très bien. Je suis désolée de ne pas avoir pu me connecter avec la caméra.
C'est pas grave.
Néanmoins, j'ai suivi tous vos débats. Débats très intéressants et je vous remercie de m'inviter à votre table ronde. Que vous dire ?
Alors, on va commencer par ce triste anniversaire, si vous le voulez bien, Annie. Et il y a 2 ans, le 5 novembre, à 2018 à 9h, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, 63 et 65, 8 morts dans le quartier populaire de Noailles que vous connaissez bien, avec 4500 Marseillais qui, on le rappelle, hein, sont ciblés par la mairie, sont dans des immeubles, près de 600 immeubles dits dangereux à proximité de l'accident.
Oui, en effet, vous faites référence à un triste souvenir et nous sommes au deuxième anniversaire de ce drame. Ce drame où moi-même j'étais élue de ce secteur, donc dans l'opposition, donc à l'époque. Donc moi je n'ai plus de mandat actuellement, mais bien évidemment ces 6 années de mandature pour une personne de la société civile comme moi, médecin au demeurant, donc aussi impliqué dans le cadre de la problématique du sanitaire et du mal logement. Peut-être qu'on reviendra sur cette question avec le Covid. A montré réellement qu'il y avait bien sûr une nécessité de construire, et j'entends très bien tout ce qui est en train d'être dit, mais également une question de reprendre en main, je dirais, le patrimoine immobilier de la ville de Marseille, et que, en effet, j'attends que ça soit déjà le premier chantier de la nouvelle équipe municipale. Alors, le mal logement, c'est la précarité. Je voulais juste dire un mot sur cette question, et je vois qu'il a été avancé par les acteurs de la promotion immobilière. C'est ce mal logement qui est lié aussi à une problématique de précarité, puisqu'à Marseille, 25%, il faut le rappeler quand même, de la population marseillaise vit sous le seuil de pauvreté, avec un vrai besoin justement de logements de qualité. Et est-ce que justement, au moment où on est en train de parler, au moment où les questions d'urbanisation sont au cœur des préoccupations, les vôtres, mais également de l'ensemble des habitants, des Français, des Marseillais, et que le mal logement est devenu de fait une inégalité criante, est-ce que justement ce moment de grande crise sanitaire, économique et politique, hein, parce que je crois qu'aussi, il faut le dire, hein, c'est une crise de gouvernance, vous l'avez cité également, est-ce que ce n'est pas le moment de repenser de façon durable et écologique la politique du logement avec ces nouveaux élus que vous décrivez qui, même s'il y a des effets d'annonce, il y a une réalité et je crois qu'il va falloir travailler ensemble
pour
créer cette nouvelle politique de façon durable, cette nouvelle politique écologique, économique et surtout adaptée, et ça je crois qu'il faut quand même l'entendre, adaptée aux besoins. Vous avez parlé de logement social. Moi, je me suis battue en tant qu'élue pour qu'on ait une redistribution du pourcentage de logements sociaux équivalents ou quasi équivalents dans les différents secteurs de Marseille.
Mais oui, 25%, vous le disiez, un quart de la population sous le seuil de pauvreté. Une réaction au propos de Dany Lévy Mozikonachi, Jean-Noël Léon.
Oui, ben, pour moi, là où je rejoins les propos de Madame Lévy, je pense qu'il y a un véritable sujet au niveau de l'harmonisation de nos administrations et c'est la gouvernance, je dirais, dans laquelle politique, dans laquelle nous avons, je dirais, à discuter au quotidien pour faire aboutir nos autorisations administratives et donc de permettre la production de logements, de rénovation, de reconstruction, puisqu'on l'a bien exprimé. En fait, nous sommes dans une triple crise, une crise sanitaire, une crise sociale. Nous sommes aussi dans une crise de transition écologique et on a le sentiment d'impuissance entre le temps politique et le temps justement pour pouvoir faire face à ces crises. Et peut-être qu'il faut qu'on mette sur pied une reconquête, je dirais, de l'habitat avec des principes simplifiés en termes de gouvernance, je dirais, administrative pour nous permettre de pouvoir répondre plus rapidement à cette crise qui frappe tout le monde et qui va être encore plus aiguë pour l'année à venir.
Alors, on va vous demander des réponses assez rapides maintenant, puisqu'on arrive dans les 5-6 dernières minutes de l'émission. Pierre-Alexandre Pernaud, là, justement, sur ce qui vient d'être dit. Ah, on vous entend plus.
Vous m'entendez ?
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui, c'est bon, allez-y.
Oui. Je pense surtout, vous voyez, qu'il ne faut pas qu'on oppose les choses. On a toujours tendance à faire des mouvements de balancier. Un moment, c'est le logement neuf, après, c'est la rénovation. Bien entendu, tous ces aspects doivent être traités. Ce que je pense, si vous voulez, on a parlé d'artère fémorale tout à l'heure pour le logement neuf. Moi, je vais vous parler de fleuron de l'économie. Pourquoi je parle de fleuron ? Parce qu'en France, on avait la capacité, jusqu'à peu, de construire 500 000 logements par an. Je vous donne deux chiffres. En Allemagne, 290 000 pour 80 millions d'habitants.
d'habitants. Aux États-Unis, 1 200 000 logements pour 300 millions d'habitants. Donc, c'est un fleuron de l'économie qu'il ne faut pas détruire. Ce que je veux dire par là, c'est que aller à la reconquête des centres-villes, et on le voit aujourd'hui, qui n'est pas que la reconquête de l'habitat d'ailleurs, qui est aussi la reconquête commerciale, ça va nécessiter des moyens et des nouveaux systèmes à mettre en place pour trouver des équilibres économiques, parce qu'il va falloir faire des logements qui soient de qualité. Je rappelle que les logements de centre-ville aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour la vieille pierre, on a des logements en danger, on a rappelé l'actualité, et ce sont des logements qui n'ont pas le confort qu'on peut attendre, qui n'ont pas d'extérieur, ce qui est demandé, qui n'ont pas d'ascenseur et qui n'ont pas de stationnement. Ce que je dis, et ça sera ma conclusion, c'est que en permettant la construction de logements neufs, qui permet aussi de loger, les gens qui sont éligibles aux logements sociaux, 11 millions de logements sociaux en France, en permettant de faire du logement pour les primo-accédants. C'est là où on va créer de la richesse qui va aussi pouvoir être réinvestie dans la rénovation urbaine. Je rappelle qu'on est 650 promoteurs adhérents et 45 dans la région Provence. Donc, on veut participer, mais il faut qu'on ait les moyens de participer et on ne doit pas nous opposer.
Absolument. Alors, je vais citer, parce que c'est important parfois de prendre un peu de hauteur, pas de hauteur dans les tours, mais plutôt de hauteur de vue. Parce que souvent, on fustige les promoteurs, vous savez, je vais utiliser une caricature, les salauds de capitalistes qui se goinfrent sur le peuple. Ça, c'est une idée reçue, un cliché qu'il faut absolument détruire. Je vais citer Thomas More, vous savez, qui a écrit un livre qui s'appelle Utopia au XVIe siècle. Thomas More était le grand chancelier d'Henri VIII à l'époque, qui disait la chose suivante, qui a été reprise ensuite par des grands urbanismes du siècle: il faut laisser les ruines se ruiner. Laisser les ruines se ruiner, ce que dit Pierre-Alexandre, est fondamental. La ville doit se reconstruire sur elle-même. Il faut accepter, et vous avez raison Pierre-Alexandre, de déconstruire pour reconstruire. Déconstruire une ville, c'est un travail stratigraphique, c'est-à-dire la couche de la ville qui se construit sur elle-même pour justement absorber d'un point de vue anthropologique les nouveaux usages de la ville. Et c'est ça qui est important. On a fustigé les promoteurs par rapport aux économies d'énergie et à la transition énergétique. Permettez-moi de dire que les champions aujourd'hui de l'application des normes draconiennes du logement, ce sont les promoteurs qui l'ont mis en place. Donc, il faut aussi, quelque part, rétablir un équilibre économique qui sort des sentiers battus, et je voulais marquer cette position, mais ce que vous dites, Pierre-Alexandre, est fondamental pour l'équilibre des villes.
Réaction de Jean-François Albert, également Claude Bertrand, il nous rapidement, on a encore d'autres sujets à traiter.
Je pense qu'après ce qui s'est passé à Rudogan, on peut entendre les ruines se ruiner, ça c'est juste interdit. Donc nous, ce qu'on fait là, et en accompagnement des collectivités, c'est essayer de voir quand il faut démolir, quand il faut réhabiliter, restaurer, rénover. Et donc, on a quelques exemples, y compris autour de la Canebière, où on vient de notifier à l'OGRM pour réaliser 25 logements locatifs sociaux. Donc, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, ne pas poser l'ancien et le neuf. Comme l'a évoqué Jean-Noël Léon, travailler sur les délais. Les délais au niveau administratif, etc. Le plan de relance a envisagé 350 millions pour l'aide aux maires densificateurs sur 2 ans. C'est énorme, c'est du jamais vu. Donc, essayons de faire que notre territoire, entre guillemets, en profite pour que les communes puissent récupérer cet argent pour en faire autre chose, dans une année où les finances des collectivités sont quand même au plus bas. L'état d'urgence sanitaire, normalement, ne suspendra pas les délais comme ça avait été le cas en mars-avril. Réjouissons-nous de ça et voyons comment on peut accélérer, et c'est vraiment ça le leitmotiv, accélérer pour que les dégâts, excusez-moi parce que je crois qu'il y aura des dégâts, il commence à en avoir, soient les plus faibles possibles. C'est vraiment ça le leitmotiv, et de façon coordonnée ensemble, parce qu'on est vraiment un écosystème d'acteurs.
Ouais. Merci Claude. Jean-François Albert, votre réaction.
Oui, rapidement. Moi, je voudrais dire qu'il faut arrêter d'opposer promoteurs à élus écologistes ouverts. Je pense qu'il y a une volonté de notre part de travailler en partenariat. Pour travailler en partenariat, il faut que tout le monde fasse son job. Et surtout, si on nous demande à nous de nous muscler, il faut aussi qu'en face, je veux dire, on ait des acteurs publics qui jouent leur rôle, c'est-à-dire qui nous permettent d'intervenir sur des zones dans des cahiers des charges que nous reconnaîtrons. Sur le centre-ville, je pense que on peut apporter des solutions. Hein, on n'est plus le méchant promoteur qui effectivement veut s'en mettre plein les poches. On est des acteurs responsables qui innovons, qui phosphorons pour amener des solutions, le logement de demain. Hein. Sur Euromed 2, nous avons réalisé le co-quartier Marseille, qui était un îlot démonstrateur oui. pour Euromed 2, ce que sera Euromed 2. Je pense que dans le centre-ville, on pourrait raisonner un peu sur ce principe, sur une idée d'îlot démonstrateur. Hein. Et je pense que les adhérents de la FPI peuvent répondre à la demande de la collectivité locale.
Merci pour tous ces témoignages. On va revenir, messieurs, dames, à l'ensemble de
Annie Lévy.
Annie Lévy, notre grand témoin. Annie, vous êtes médecin à l'hôpital Nord. Je voudrais faire le lien sur notre débat avec ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire. Vous êtes vraiment au contact des populations. L'épidémie est en train d'exploser. Vous tirez la sonnette d'alarme, notamment, ça fait le lien avec le logement, sur des populations qui n'ont pas de télétravail, qui, par la force des choses, ne peuvent pas forcément respecter les gestes barrières et dont l'isolement est incorrect.
J'ajoute 400 000 défaillances d'entreprises qui ont été identifiées d'ici mi-novembre. 700 000 nouveaux chômeurs clairement identifiés sont un peu plus d'un million fin décembre. Mmh. Voilà. Et donc, avec déjà 25% de la population des Marseillais qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, beaucoup travaillent aussi dans des métiers précaires, on les appelle les travailleurs pauvres. Là, ils n'ont carrément plus de boulot, donc ils sont projetés directement dans la précarité.
Annie, est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis avec vous. Oui, non, je pense qu'en effet, si la problématique du logement et du mal logement pour les quartiers défavorisés est un sujet en soi, avec la crise du Covid, il est encore plus prégnant. Aujourd'hui, il faut être clair, même si on veut pas le dire ou on veut pas le voir. Malheureusement, et je pense que c'est aussi un point qu'il va falloir voir dans la réévaluation du quartier du centre-ville de Marseille. On manque de logement social et de fait, les gens s'agglutinent dans des appartements qui ne sont pas du tout adaptés au nombre de personnes et là, le virus circule énormément. Et donc, ça aussi, ça vient se rajouter à une nécessité extrême. De repenser la relance, bien sûr, du plan de relance, mais également, je ne suis pas du tout contre, et vous l'avez bien compris, je pense, c'est pour ça que vous m'avez invité, de revoir de façon globale les problématiques. Il est évident que ce problème de mal logement est un fait que certains élus ont voulu laisser de côté, je le dis clairement. Maintenant, on est devant une nouvelle donne, à réfléchir ensemble, à relancer le logement en partant des besoins des villes, en partant des besoins aussi de la population et en permettant à la fois d'être bien logé, de permettre aussi que tous les terrains qui existent ne deviennent pas aussi un lieu de promotion immobilière. On a besoin d'avoir des jardins dans des villes. Ça, c'est une réalité, mais on a aussi besoin de logements salubres et je crois qu'on est également à devoir envisager de la promotion immobilière selon un cahier des charges qu'il faut définir ensemble. Oui. Voilà un petit peu ma vision aujourd'hui, à la fois d'anciens élus, de la société civile impliquée dans le territoire, et également de médecins qui est à gérer, hein, je le dis, dans les quartiers défavorisés de Marseille, le mal logement comme un événement malheureusement qui vient s'ajouter à la guerre contre ce virus et aujourd'hui il faut l'avoir en tête, on a aussi à identifier des logements adaptés à la population.
Évidemment, il faut lutter. Vous avez même des pistes de propositions avec l'association Innovons pour Marseille. Hein. Vous dites qu'il faut vraiment que la solidarité s'organise, pourquoi pas, avec des solutions innovantes. Il y a déjà des partenaires qui aident, hein, des hôtels, certains ferries.
En effet, j'en profite, hein, puisque aujourd'hui, nous sommes et nous avons fait passer, dans le cadre de notre collectif, on a fait passer une note à sa demande, hein, le cabinet du Premier ministre, nous a demandé de réfléchir justement autour de cette question du mal logement. Il faut créer des lieux d'éviction en urgence actuellement. Et s'il y a des logements qui sont vacants, nous, on est prêts à pouvoir proposer des septaines, donc de quarantaine, hein, le terme est plus adapté, pour des populations qui, on le sait, s'ils sont positifs pour le Covid, les laisser dans les appartements actuellement exigus est en fait d'une non-sens et presque d'une non-assistance à personne en danger en tant que médecin. Et donc, actuellement, il faut, et si vous pouvez nous aider, on a contacté les hôtels. Nous avons également eu un accueil favorable des sociétés de ferry qui sont prêtes à nous aider. Simplement, il faut absolument trouver le lien. Et pourquoi pas, vous, actuellement, acteur du logement et de la promotion.
Merci pour ce témoignage, hein, Annie Lévy, Monique Onachi. C'était très intéressant. Malheureusement, cette émission touche déjà à sa fin. On retient Sylvain de Trois Grandpins, hein, vraiment déconfiner, permis construire, sauver ce fleuron de l'économie.
Absolument,
on l'a entendu.
Absolument. Alors moi, je l'appelle artère fémorale de l'économie. Pierre-Alexandre, le fleuron de l'économie. Mais on est d'accord. Je pense sur le fond, Pierre-Alexandre. Je veux juste quelques points à rappeler et reprendre l'appel d'Annie. Daniel Lévy, Mozi Konachi, parce que hier c'était la 7e journée Solidarité Logement et l'urgence de toutes les solidarités. Intéressant parce que c'était le 5 novembre, donc une date aussi mémorable et dramatique puisqu'on se rappelle du drame de la rue d'Aubagne. On se rend compte enfin dans notre époque qu'un immeuble peut tuer, c'est-à-dire qu'une arme est une arme par destination, est aussi vecteur d'amélioration ou dégradation de la santé publique. Ça c'est un premier point et Annie Lévy l'a très justement rappelé. La responsabilité des promoteurs, soyons clairs, elle est clairement engagée dans ce combat urbain pour apaiser les villes, les rendre harmonieuses, les rendre mixtes, les rendre fonctionnelles aussi, puisqu'il faut aussi rappeler que le logement est un vecteur déterminant de l'emploi. L'éloignement du logement éloigne de l'économie et de l'emploi. Les promoteurs, on en a besoin. Je salue aussi l'action de Claude Bertolino en tant que patronne d'un aménageur public. C'est l'osmose maintenant qui règne effectivement avec les promoteurs. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de défiance vis-à-vis des promoteurs privés. Il y a un vrai partenariat public-privé qui s'organise. L'urgence territoriale, aujourd'hui, c'est plus d'un million de logements à construire. Les chiffres sont en berne. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé d'un plan de relance. Moi, j'appellerais ça plutôt de mes voeux et je conclurai là-dessus d'un véritable plan Marshall pour la promotion immobilière et rétablir l'équilibre du logement parce que les Français ont du talent et les promoteurs ont du talent. Merci à toutes et à tous.
Merci à l'ensemble de nos invités, Jean-Noël Léon, Pierre-Alexandre Pernaud, Jean-François Albert, merci. Et puis par téléphone, Claude Bertolino et Annie Lévy-Mozi-Konachi. C'était le premier hebdo des régions. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous retrouvez bien évidemment cet épisode en podcast. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.
L'hebdo des régions avec la FPI, une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.